I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 22 janvier, Le Parisien a consacré les premières pages de son édition, Le Fait du Jour, au climat de terreur qui règne actuellement dans un quartier populaire de 5000 habitants à Valence, dans la Drôme. Depuis plusieurs années, les habitants de la cité du Plan, à 10 minutes du centre-ville, assistent impuissants à la guerre que se livrent des trafiquants de drogue armés. En 2023, il y avait l'équivalent d'une fusillade tous les 3 jours. Alors comment ce quartier de Valence est-il devenu le théâtre de telles violences? Pour le savoir, Christelle Brigodeau, journaliste au service police-justice du Parisien, a passé 3 jours sur place. Elle nous raconte son reportage dans Code Source. Christelle Brigodeau, le lundi 15 janvier, la ville de Valence se retrouve au centre d'une petite agitation médiatique à cause d'une vidéo d'appel au kidnapping qui circule sur le réseau social Instagram.
On sait que ce sondage a été publié ce week-end sur un compte Instagram qui depuis a été supprimé. Un sondage qui appelle directement à l'enlèvement, au kidnapping d'enfants de cette cité de Valence, un quartier où l'on se trouve ce matin réputé, sensible et difficile.
Qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors en fait, c'est un sondage sous forme d'une vidéo avec cette question. Est-ce qu'on enlève les gamines du Plan ? Je cite. Ça crée une agitation énorme dans le quartier en question, le quartier du Plan, parce que les gens comprennent qu'il s'agit peut-être de demander à des gens s'ils ont envie d'enlever des gamines, des enfants des deux écoles qui se trouvent dans ce quartier.
Est-ce qu'on sait qui a posté cette vidéo et d'où est-ce qu'elle provient ?
Non, l'identité des auteurs n'est pas du tout établie à ce moment-là. La ville de Valence va porter plainte très rapidement une fois qu'elle est mise au courant. Mais pour les habitants du Plan, il ne fait aucun doute que cette vidéo vient du quartier rival de Fombarlette, parce qu'entre les deux quartiers existent depuis des mois, voire des années, des rivalités sur fond de trafic de drogue.
Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, un mot sur vous, Christelle Brigodeau. Les auditeurs et auditrices les plus fidèles de Code Source vous ont souvent entendu parler d'éducation, la rubrique que vous avez couvert pendant 8 ans au Parisien. Puis vous avez à plusieurs reprises raconté à ce micro vos reportages en Ukraine. Depuis un mois, vous êtes reporter au service police-justice. Et à la mi-janvier, en voyant cette inquiétude monter à Valence, vous vous dites qu'il faudrait aller sur place pour creuser cette histoire ?
Au journal, on se souvient en fait que c'est pas la première fois qu'on parle de ce quartier du Plan à Valence. Au mois de juin, les CRS avaient dû être déployés autour d'une des deux écoles du quartier parce que il y avait des suspicions de violence d'hommes en armes autour de l'établissement. Donc, sachant ça, on se dit qu'il y a peut-être quand même quelque chose à creuser au-delà de cette histoire de vidéo et qu'il y a peut-être un climat et une histoire plus profonde à explorer.
Alors Valence, c'est une ville moyenne d'environ 65 000 habitants et des villes de cette taille qui sont confrontées au trafic de drogue et aux violences, il y en a de plus en plus. Expliquez-nous pourquoi.
Déjà, une des premières explications que m'expliquera un chercheur qui s'appelle Michel Gandillon, qui est spécialiste de ces sujets, c'est que les consommateurs de drogue sont partout, y compris dans les zones rurales, les villes moyennes, et que pour cette raison-là, le trafic existe aussi dans des petites villes. Et puis, par ailleurs, dans les grandes villes comme Marseille, par exemple, qui n'est pas si loin que ça de Valence, il y a une énorme concurrence sur les points de deal de la ville, entre les différents groupes, et ça peut expliquer aussi que certains groupes organisés décident finalement d'aller voir ailleurs, de s'implanter dans des zones où il y a moins de concurrence et donc dans des villes plus petites. Donc c'est le cas de Valence, c'est le cas aussi d'autres villes moyennes en France.
Le lundi 15 janvier, vous faites donc la route depuis Paris, vous arrivez à Valence en début de soirée, dans le quartier qui est donc le théâtre de ces violences, que les habitants appellent le quartier du Plan. Où est-ce qu'il se situe dans la ville ? À quoi ça ressemble ?
Alors, ce quartier n'est pas du tout excentré par rapport à Valence. Il se situe à une petite dizaine de minutes en voiture du centre-ville, à l'est. Valence étant elle-même la capitale d'une région quand même très connue pour la beauté de ses paysages. Il y a les montagnes drômoises tout près, on les voit à l'horizon. Le quartier ressemble à un quartier sans histoire. C'est étonnant parce qu'on arrive en se disant qu'on va trouver peut-être une ambiance très particulière. En fait, quand j'arrive en début de soirée, il fait nuit, il n'y a personne dans les rues et les rues en elles-mêmes ressemblent à un quartier populaire rénové récemment. Il y a la maison de quartier qui trône un peu au milieu, il y a deux écoles, des espaces verts, c'est plutôt bien entretenu, on sent qu'il y a eu des rénovations. C'est pas un quartier où quand on y entre, ça saute aux yeux qu'il y a des problèmes. Il y a des pavillons tout autour. Par contre, en discutant avec les gens et en regardant plus précisément, oui, il y a par exemple une rue dans un quartier pavillonnaire où il y a des seringues par terre, il y a un coin de rue où il y a toujours du monde, parce qu'en fait, c'est un point de deal. Mais les choses sont assez cachées, et quand on passe rapidement, on s'en rend pas compte.
Et c'est quel type de population qui vit dans ce quartier du Plan ?
C'est un quartier populaire avec un côté pavillonnaire avec des propriétaires et de l'autre côté, dans des petits immeubles ou des bars, mais qui font dans les trois étages, des locataires du bailleur social de la ville. Donc les gens qui vivent là sont pour beaucoup des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et il y a une partie, on m'explique, des logements qui sont vides parce que le quartier jouit pas d'une très bonne réputation, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent emménager là.
Quand vous arrivez, vous vous rendez dans une école où des mamans du quartier ont organisé ce soir-là une réunion.
En fait, c'est une réunion qui se tient un petit peu de façon improvisée parce que il y a eu donc cette agitation autour de cette vidéo sur l'idée d'enlever peut-être des enfants du quartier. Donc, face à cette menace, plusieurs parents d'élèves, essentiellement des mères, ont alerté la mairie de Valence, les autorités, le préfet, pour demander à ce que quelque chose soit fait, pour demander une grande vigilance. Et donc, cette réunion avec les autorités doit se tenir dans quelques jours et les maires ont décidé de se réunir entre elles avant pour accorder leur violon, disons, et savoir quelle doit être leur stratégie. Quand j'arrive devant les grilles, les mamans qui participaient à cette réunion viennent de sortir et elles sont en train de discuter devant le parvis de l'école.
Qu'est-ce qu'elles vous racontent ?
Alors, l'ambiance est assez tendue parce qu'elles ont décidé de ne pas parler, elles ont peur de ce qu'elles pourraient dire, des conséquences que ça pourrait avoir. Donc, elles ont convenu de ne rien dire et on sent un climat de tension. Les gens s'en vont très vite. Il y a une petite fille qui pleure, qui veut absolument rentrer. Sa mère m'explique qu'elle a peur parce que, à cause de ce climat, il y a plusieurs enfants qui s'estiment en danger dans la rue et donc commencent à paniquer quand ils sont dehors le soir. Donc, oui, on se rend compte là que l'ambiance n'est pas normale.
À l'origine des craintes de ces habitants, vous l'avez déjà évoqué, il y a les violences qui sont dues à une rivalité ancienne entre ce quartier, le quartier du Plan, et une cité voisine, Fond-Barlette, sur fond de trafic de drogue. Expliquez-nous ça.
Alors oui, la cité de Fond-Barlette se situe en fait juste à côté du Plan. Les deux quartiers sont séparés par un parc et en fait sont complètement voisins. D'ailleurs, quand il y a des sortes d'expéditions punitives qui sont organisées d'un quartier vers l'autre, très souvent les jeunes se promènent en trottinette électrique pour aller d'un quartier à l'autre. Il y a une rivalité entre ces quartiers et entre les points de deal. La question, évidemment, elle est financière et c'est une question de pouvoir, une question d'argent aussi parce qu'un point de deal, ça rapporte beaucoup. On sait qu'entre les clans qui tiennent ces différents points de deal et ces deux cités, il y a une grosse rivalité qui occasionne énormément de violence.
Christelle Brigaudeau, en règle générale, un point de deal, ça peut rapporter combien aux trafiquants ?
Alors, d'une manière générale, d'après ce que m'explique donc le sociologue Michel Gandillon, un bon point de deal, c'est entre 70 000 et 80 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, c'est une entreprise florissante. Pour ce qui concerne le cas de Valence, on ne sait pas exactement combien il y a de points de deal ni combien chacun rapporte. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des grosses sommes en jeu parce que la police a procédé aussi à des interpellations, à des fouilles de lieux où ils ont trouvé de l'argent en grande quantité, de la drogue en grande quantité et aussi des armes.
Et on sait quelle drogue circule dans ces deux quartiers à Valence ?
Alors, on parle de cannabis, de cocaïne aussi. Et ce qu'on m'explique, c'est que ce que demandent les consommateurs, les dealers vont toujours s'arranger pour les trouver. Donc, c'est un peu ce que, d'ailleurs, les spécialistes appellent le syndrome de l'épicerie, c'est-à-dire que les points de deal, maintenant, sont devenus des points où on peut se procurer un peu tout ce qu'on veut.
Christelle Brigodeau, le lendemain, le mardi 16 janvier, vous vous rendez donc à Fond-Barlette, la cité voisine du quartier du Plan. Décrivez-nous les lieux.
Alors, il est un petit peu plus vaste que le quartier du Plan, avec des habitations, des tours plus hautes. Il fait 8000 habitants contre 5000 au Plan. Et c'est un quartier qui est plus dégradé. On voit des tags assez explicites sur la rivalité entre les deux quartiers. On peut lire sur l'un d'eux « Nique la Zup », la Zup étant le surnom du quartier du Plan. Au moment où j'y vais, il se trouve que c'est le marché du mardi matin. Et personne ne veut parler. Les gens sont très, très inquiets même d'être vus en train de parler avec un journaliste.
Est-ce que le trafic de drogue y est visible dans ce quartier-là ?
Oui, bien sûr, il est complètement visible. Par exemple, il y a un coin de rue à côté du local des Restos du Cœur, donc où il y a beaucoup de gens des deux quartiers d'ailleurs qui viennent recevoir des paniers et de la nourriture. Il y a un point de deal qui est donc écrit sur un mur. C'est écrit Drive avec les horaires d'ouverture 10h minuit. Là, il y a des hommes qui ont l'air jeunes qui tiennent le point et qui regardent les voitures qui s'arrêtent et qu'à la fois ils attendent le client, mais ils contrôlent aussi l'entrée dans cette rue principale qui arrive dans le quartier. J'ai pu m'y promener aussi de nuit en voiture, et là aussi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tellement de promeneurs, mais qu'il y avait à peu près en bas de chaque bâtiment ou à chaque coin de rue des silhouettes comme ça, soit en trottinette, soit à pied, qui avaient l'air, pareil, d'attendre ou de surveiller.
Christelle Brigodeau, la violence a explosé entre ces deux quartiers, celui du Plan et celui de Fond-Barlette, depuis 2 ans. On sait à quoi c'est dû ?
Oui, en tout cas, plusieurs habitants et gens qui connaissent très bien le quartier m'expliquent tous la même histoire et la même chose. C'est que les violences ont commencé dans une espèce d'engrenage qui prend sa source le 6 mai 2022, quand 2 personnes sont abattues dans la rue face à l'école Brossolette, qui est à l'école du Plan. À cet endroit-là, donc, les policiers retrouvent dans 2 voitures 2 hommes, dont un qui s'appelle Nabil B, qui est l'un des tenants présumés du trafic côté Fond-Barlette. Et en fait, à partir de là, on m'explique que les connaissances et soutiens de la victime, Nabil B, vont décider de représailles sur l'ensemble du quartier du Plan. Et pas seulement les auteurs présumés de l'assassinat, mais tout un quartier.
Depuis ce moment-là, à quelles frayeurs sont confrontés les habitants du Plan au quotidien ?
Alors, ils sont confrontés en fait à des fusillades qui se passent de manière régulière. D'après ce qu'a expliqué le procureur de Valence, rien qu'au premier semestre de 2023, ont été recensées plus de 60 ouvertures de feu entre les deux quartiers, du Plan et de Fond-Barlette. Donc concrètement, ça veut dire une fusillade tous les 3 jours. C'est énorme. Il y a eu 16 blessés pendant cette période-là. Au mois de mai 2023, il y a eu 4 morts en une semaine, toujours dans le cadre de ces règlements de compte qui n'en finissaient pas, en fait.
Et est-ce qu'au Plan, il arrive à des habitants, par exemple, d'être visés personnellement ?
Il y a 2 choses, en fait, qu'il faut retenir. C'est que la première, les habitants se retrouvent à être victimes collatérales de cette guerre des bandes qui sévit en bas de chez eux. Il y a des gens qui ont eu des tirs dans leurs fenêtres, dans leur immeuble, ou qui, en sortant de chez eux, se sont retrouvés au milieu d'un règlement de compte. Mais par ailleurs, il peut arriver que des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le trafic se retrouvent à avoir maille à partir avec des trafiquants parce que c'est leurs voisins ou des gens du quartier, et ça peut finir très mal. Il y a par exemple un gardien d'immeuble qui a été menacé et visé par des tirs simplement parce qu'il avait fait des remarques sur le bruit qu'elle faisait à des personnes qui possédaient des armes et donc ont décidé de se venger comme ça, ou d'autres personnes qui ont été menacées simplement parce qu'elles avaient eu des accords avec d'autres personnes pour des questions de voisinage. On voit une violence complètement disproportionnée avec un petit problème de voisinage que n'importe qui peut connaître, on arrive avec des menaces de mort.
Et on vous raconte que les personnes qui déclenchent ces fusillades sont souvent jeunes, voire mineures, et qu'elles sont lourdement armées.
Oui, elles peuvent se promener avec des armes de guerre ou des armes automatiques, donc qui font énormément de dégâts, y compris d'impact de balles. On sait que, par exemple, à Valence, il y a eu des fouilles et des opérations de police menées sur des caches d'armes, et on a retrouvé des canons sciés, des armes en quantité importante qui étaient quelquefois cachées dans des armoires techniques en plein milieu du quartier.
Sur place, vous rencontrez un directeur d'école qui enseigne depuis des années dans le quartier. Qu'est-ce qu'il vous raconte ?
Il raconte effectivement le climat de peur que moi j'ai pu constater par ailleurs, et il me raconte surtout l'impact que ça a sur les élèves, sur les enfants, qui pour certains, au moindre bruit, vont se cacher sous une table parce qu'il y a déjà eu des échanges de tirs en bas de chez eux et ils sont terrifiés. Ce qu'il m'explique aussi, c'est que pour une équipe éducative qui est là en place et qui travaille depuis longtemps dans un quartier, il peut reconnaître, comme d'anciens élèves, des jeunes qui ont fait le choix, conscient ou moins conscient, d'aller dans le trafic de drogue. Et pour chacun de ces jeunes, c'est un échec. En tout cas, c'est ce que me dit ce directeur.
Est-ce que la ville et les forces de l'ordre ont mis des choses en place pour tenter d'endiguer ce trafic de drogue et les violences qui vont avec ?
Les moyens sont importants parce qu'effectivement, le problème est plus qu'identifié. Rien que sur l'année 2023, il y aura pendant 86 jours des CRS en nombre dans le quartier, ce qui est une présence forte. Il y a un plan Place Nette qui est mis en place, donc avec une descente de police qui va durer plusieurs jours où on va essayer de trouver des armes, l'argent, un peu le nerf de la guerre qui peut faire du mal aux dealers. Il y a beaucoup d'interpellations qui sont menées. Et puis, la décision est prise à Valence, comme à Maubeuge et à Besançon, donc deux autres villes moyennes, de mettre en place ce qu'on appelle la FAR, une force d'action républicaine, où pendant 6 mois, tous les services de l'État vont se concerter pour donner les moyens nécessaires pour agir contre le trafic de drogue.
Et tout ça, ça peut suffire à éradiquer le trafic de drogue dans la ville ?
Ce qu'expliquent les autorités, c'est que la lutte contre le trafic de stupéfiants, elle est très difficile parce qu'à chaque fois qu'on coupe une tête, d'autres repoussent. Le préfet fait la comparaison avec une hydre qui en fait revit à chaque fois qu'on la décapite. Donc ce qu'on m'explique, c'est que le travail n'est pas terminé, les autorités en ont conscience. Les services de police et de justice ont le sentiment d'avoir déjà mis un coup d'arrêt à une partie du trafic et déstabilisé ce trafic, mais ils n'ont pas encore mis fin à la violence et surtout pas au climat de peur qui règne dans la ville.
Et ce climat de peur, il est alimenté notamment par une liste de gens, je cite, à abattre, qui circulent sur le réseau TikTok et que des habitants vous ont montré. Décrivez-nous cette liste, à quoi elle ressemble ?
Alors c'est une sorte de patchwork de visages, c'est des photos de profil en fait qui ont été prises sur les réseaux sociaux de gens qui habitent donc dans le quartier du Plan, et ces visages ont été mis les uns à côté des autres sur comme un montage, et presque rien n'est écrit en fait, simplement cette liste est diffusée. Alors moi j'en ai vu une, on m'a expliqué que c'était pas la première, que assez régulièrement il y avait ce genre de montage qui sortait avec des réactualisations, c'est-à-dire qu'il y a des visages qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent. Et parmi ces visages, il y a des gens qui ont effectivement été ensuite la cible de violence. Donc ça fait évidemment très peur à ceux qui sont dessus, parce que dessus, il y a des gens dont on me dit qu'ils ont un rapport plus ou moins fort avec le trafic de drogue, mais d'autres pas du tout.
Est-ce que vous avez réussi à contacter des personnes qui se retrouvent sur cette liste de gens à abattre ?
Alors, il y a l'une des personnes qui figure, oui, sur la dernière liste qui a bien voulu me parler, sous couvert d'anonymat, parce que ses proches eux-mêmes ne sont pas au courant qu'elle figure sur cette liste. Il m'expliquait ne pas trop savoir quoi en penser, à savoir est-ce que c'est de l'intimidation ou est-ce que c'est une menace réelle qui pèse sur lui. Mais ce qu'il me disait, c'est que ne sachant pas ce qu'il fallait attendre, il s'attendait quand même plutôt au pire et il faisait très attention, il restait sur ses gardes.
Christelle Brigodeau, parmi tous les habitants et les habitantes du quartier du Plan de Valence, avec qui vous avez échangé pendant vos 3 jours sur place, est-ce qu'il y en a qui pensent à déménager ?
Oui, moi j'en ai rencontré qui voudraient partir, mais qui peuvent pas, parce qu'ils sont locataires de l'office HLM et qu'on leur explique que leurs revenus ne sont pas suffisants pour qu'ils puissent prétendre à un autre logement social ailleurs. Il y a des gens qui voudraient partir, mais ils vivent dans la zone pavillonnaire, ils ont un emprunt, un crédit, et c'est pas possible pour eux de partir. Il y a des gens qui ont pu partir et qui ont déjà quitté le quartier. Et d'autres qui expliquent qu'eux veulent rester, mais qu'ils attendent une réponse forte des pouvoirs publics pour que le climat change.
Votre reportage sur ce quartier de Valence est publié dans les premières pages Le Fait du jour du Parisien le lundi 22 janvier. Christelle Brigodeau, est-ce que le cas de ce quartier du Plan à Valence que vous avez raconté dans cet épisode est amené à se répandre, à se retrouver ailleurs dans le pays ?
Alors, on sait que la violence va avec le trafic de drogue et que le trafic de drogue a tendance à se développer partout, y compris dans les zones moyennes et même à la campagne. À partir du moment où les consommateurs sont partout et que la demande de consommation de drogue augmente, comme c'est le cas aujourd'hui, évidemment, la violence et le trafic continuent et se développent.
Merci à Christelle Brigodeau. Code Source, c'est l'actualité racontée par la rédaction du Parisien chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et réalisé par Julien Moncouquiol. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous mettre une note, ça nous aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Partagez-nous vos avis, vos idées à cette adresse, codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story avec une nouvelle affaire criminelle à retrouver chaque samedi.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.